Bonjour Karine Ramondi.
Bonjour.
Dans votre livre, vous revenez sur l'histoire de quatre figures des indépendances: Patrice Lumumba en République démocratique du Congo, Félix Moumié et Ruben Oumiobé au Cameroun, Barthélemy Boganda en Centrafrique, et vous nous expliquez comment le pouvoir colonial a cherché à éliminer ces leaders ou au moins à les écarter, à les faire oublier. Comment expliquer un tel acharnement face à ces leaders politiques africains?
Bah, je pense que c'est tout simplement parce que ces leaders ne correspondent pas au modèle du leader qui va permettre à ces puissances de travailler dans le sens d'un néocolonialisme, c'est-à-dire d'une nouvelle forme de domination des ex-puissances coloniales sur les ex-colonies. C'est-à-dire, ce sont des leaders que j'ai qualifiés entre guillemets d'encombrants, qui ont des projets pour les jeunes nations qu'ils incarnent, des projets d'une véritable indépendance, d'une véritable réappropriation des terres, des ressources minières, une vraie envie de faire de la politique avec leurs propres idées et non pas les idées bipolaires de l'époque, et donc une véritable volonté de s'inscrire dans le changement.
L'un des sujets sur lesquels vous apportez une matière neuve dans ce livre, c'est le crash de l'avion de Barthélemy Boganda, le père de l'indépendance centrafricaine. Ce crash est décrit dans un rapport qu'on appelle le rapport Bellonte. Vous avez pu le dépouiller et l'analyser. Est-ce que ce rapport nous donne le fin mot de l'histoire sur les raisons de la mort de Boganda? Est-ce qu'on peut trancher entre l'hypothèse de l'accident et celle de l'attentat?
L'étude de ce rapport ne permet pas de trancher. C'est un rapport qui bascule très très vite sur des explications techniques et les causes météorologiques qui étaient relativement défavorables. C'est aussi un rapport qui ne prend absolument pas en compte les témoignages locaux des personnes qui étaient au sol et qui auraient pu apporter des éléments importants. Ils n'ont pas été pris du tout au sérieux par la commission. L'analyse de ce rapport m'a permis de mettre à jour une série de manquements qui nécessiterait à coup sûr la réouverture d'une commission d'enquête afin de pouvoir revenir sur un certain nombre de ces manquements.
Autre dossier sur lequel vous avez obtenu des éléments neufs, l'assassinat de Félix Roland Moumié le 3 novembre 60. Vous avez pu reconstituer le dossier militaire de l'homme qui l'a assassiné, William Bechtel. Qu'est-ce que les archives nous disent de cet homme?
Il s'engage très tôt dans les forces françaises libres. Dès le 27 juin 1940, il participe à énormément de campagnes, Syrie, Libye, Bir Hakeim, et il se porte volontaire pour une série d'actions clandestines. C'est quelqu'un qui va se porter aussi volontaire pour poursuivre la guerre en Indochine. Il sera plusieurs fois médaillé, il va être fait chevalier de la Légion d'honneur en 1945. En fait, la fin de ses états de service date de 1951. Et il va s'illustrer par une série d'actions au service du SDEC en tant que réserviste.
Le SDEC, donc le nom des services secrets français de l'époque.
Exactement. Et ce qui m'a particulièrement intéressée aussi, c'est de voir que bon, l'affaire Moumié est une affaire pour lui parmi d'autres. Il travaille parallèlement sur des actions de surveillance, des plans d'approche envers des militants du FLN comme Ferhat Abbas, ou envers des avocats du FLN comme Maître Ellenberger.
Si on parle maintenant d'un troisième dossier, l'assassinat de Patrice Lumumba le 17 janvier 1961, vous montrez dans votre travail toute une série de connexions entre ceux qui veulent faire tomber Lumumba et notamment entre toutes les grandes agences de renseignement.
Lumumba est le leader absolument gênant pour les Français, car il représente un contre-modèle à Fulbert Youlou au Congo-Brazzaville. Il est gênant pour les Belges depuis le départ, puisqu'il n'est pas, on va dire, l'interlocuteur qu'il souhaitait avoir en tant que Premier ministre. Il est gênant parce que l'on craint que sa politique et son aura débordent sur les affaires rhodésiennes et également en Afrique du Sud. On peut rajouter aussi, évidemment, l'intérêt américain qui convoite, bien évidemment, les mines d'uranium de la jeune République du Congo. Et Lumumba semble échapper au contrôle des Américains, ce qui va évidemment constituer encore une opposition supplémentaire au gouvernement de Lumumba. Finalement, c'est un peu une sorte de course à la mise à mort.
Et qui va être le plus rapide?
Ben, très clairement, les autorités katangaises, et notamment Godefroy Munungo, qui a sorti d'un certain nombre d'hommes de main belges, provoque la mise à mort de Lumumba et de ses compagnons.
Karine Ramondi, merci.